11h43 minutes, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101. C'est 19 degrés sur Québec, ensoleillé pour aujourd'hui. Quelle belle journée. Maximum de 25 avec l'humidex. Température ressentie de 28. Demain, jeudi, une journée ensoleillée avec un maximum de 25 avec l'humidex, c'est 29. Vendredi, ensoleillé, maximum de 25. Samedi, alternance de soleil et nuages avec un maximum de 23. Et pour ce qui est dimanche, ben, ce serait nuageux avec un maximum de 18 avec des probabilités d'averse à 60 %. Notre invité. Ça va être une surprise pour vous, Antonine Iacarini, chroniqueuse politique. Salut Antonine!
Hey, c'est quel... moi!
Eh oui, on est content de te jaser. On a appris ce matin par la bouche de François Legault que finalement, Pierre Fitzgibbon s'est fait démissionner.
Oui, il s'est fait démissionner plus vite qu'il voulait démissionner. On pourrait dire ça comme ça. Le premier ministre l'a devancé.
Oui. Puis selon toi, là, en tant qu'analyste, est-ce que c'est une bonne façon de faire compte tenu du fait qu'il fallait régler ça le plus rapidement possible puis qu'à un moment donné, on va se le dire, là, on a peur que tout le monde quitte le bateau. Là. Éric Girard qui rêve d'être ministre des Finances conservateur, c'est ce qu'il avait mentionné. On a peur que les gens quittent, c'est quoi?
Oui, parce que si tout le monde se met à annoncer qu'ils veulent plus se représenter, s'il y a des gens qui démissionnent, ça donne une impression de fin de régime. Hein. On dit ça souvent, cette expression-là, ça sent la fin de régime. On a l'impression que les gens quittent le navire parce qu'il est en train de couler. Donc ça, c'est une gestion que tu as à faire quand tu es dans un deuxième mandat. Il y a une façon d'annoncer les choses pour essayer là, que ça n'ait pas l'air d'une catastrophe, que ça précipite encore plus la catastrophe. Là, ça devient une prophétie auto-réalisante. Mais dans le cas de Pierre Fitzgibbon, ça fait des mois qu'on parle de son envie de démissionner. Alors, c'est une rumeur qui courait. Il faisait pas grand-chose pour la faire taire, cette rumeur-là. Puis c'est une de ses qualités à Fitzgibbon, c'est-à-dire que de façon générale, il a la réputation d'être assez authentique et de répondre avec beaucoup de candeur quand on lui pose une question. Donc, il ne voulait pas laisser entendre, promettre qu'il allait terminer son mandat. Donc, il l'avait jamais vraiment dit au premier ministre. Puis c'est ce qu'on a appris là, hier et aujourd'hui, ce matin, en conférence de presse, c'est qu'une fois que Pierre Fitzgibbon a annoncé ses couleurs plus clairement au premier ministre, son intention, c'était de quitter après son projet de loi sur l'énergie qui est à l'étude cet automne.
Mais ça aurait bien paru quand même.
Bien, on s'entend. Mais le premier ministre a dit, garde Pierre, moi, je suis pas à l'aise que, en sachant que tu veux quitter à la fin de la session, on laisse planer des doutes, on va se retrouver face à une situation où on va soit devoir mentir, puis c'est jamais une bonne chose de mentir aux médias puis aux citoyens, ou alors de laisser aller des spéculations, répondre ben oui, je veux m'en aller à la fin de la session, puis ça fait des distractions. Donc la stratégie, c'est de dire ben on va passer une très mauvaise semaine cette semaine. On va donner le projet de loi et tous les dossiers de Pierre Fitzgibbon à un ministre en lui laissant très peu de temps pour se préparer. Mais après ça, on va avoir tiré sur le pansement, puis on va peut-être sauver le reste de la session. Mais c'est un peu ça, la stratégie du PM qu'on voit se déployer. Je dirais pas avec une grande finesse, là, cette stratégie-là, parce que on s'entend qu'hier, il y a un article de la presse qui est sorti clairement plus tôt que ce que le cabinet du premier ministre aurait voulu. Mais c'est ça la stratégie, c'est passons de mauvaise semaine pour essayer de sauver la session.
Mais je la trouve étrange comme stratégie parce que, veut pas, à un moment donné, ça aurait été annoncé. Veut pas, à un moment donné, il aurait fallu faire avec, ça aurait détourné l'attention, on aurait passé cette mauvaise semaine-là. Mais là, en ce moment, on passe la mauvaise semaine, il y a un genre de semi-chaos dans les communications, parce que là, on apprend que Pierre Fitzgibbon quitte la politique. Il a invoqué une perte de motivation qui n'était plus vraiment là-dedans. Mais finalement, François Legault dit, ben non, c'est plutôt nous qui lui avons montré gentiment la fin de sa carrière politique dans nos rangs. Puis d'une autre manière, ça paraît encore plus mal en ce moment parce qu'il n'a pas fini son projet. Qu'est-ce qu'il y aurait, pour toi, dans ta vue d'analyste, là, est-ce que tu penses que ça aurait été mieux de dire, hey, bonjour à tous, bonjour tout le monde, s'asseoir, faire un point de presse, puis dire, ce sera la fin de ma carrière politique auprès de la CAQ après le dépôt de ce dit projet-là, mais on veut le ficeler, on veut bien le faire. Au contraire, moi, je pense que ça aurait bien paru.
Je suis assez d'accord avec toi, Pascal. Moi, mon avis, puis c'est un peu difficile, on est dans les spéculations, on ne sait pas comment ça se serait passé si l'autre décision avait été prise de garder Pierre Fitzgibbon en poste jusqu'à la fin de son projet de loi, jusqu'à la fin de la session parlementaire. Mais là, c'est vrai que ça donne l'impression qu'il laisse les choses en plan, ça fait l'impression que c'est précipité. Je pense qu'il voulait l'annoncer de toute façon aujourd'hui. Ça a été devancé de 24 heures, mais c'est vrai que ça donne l'impression que M. Fitzgibbon n'a pas terminé le projet pour lequel il s'était présenté pour un deuxième mandat. Il y a un poste de super ministre qui a été composé juste pour lui avec l'énergie et l'économie. C'était la vision de Pierre Fitzgibbon. Et oui, du premier ministre aussi, mais c'était l'homme de la situation pour ça. Puis il termine pas son projet de loi. Donc moi, personnellement, j'aurais été plus partisane. Si j'avais été autour de la table des conseillers puis qu'on m'avait demandé mon avis, ça aurait été que M. Fitzgibbon termine son projet de loi, quitte à dire la vérité, puis à dire, de toute façon, il disait déjà qu'il n'allait pas terminer son mandat, il disait à peu près à tout le monde, puis devant les médias, il refusait de confirmer qu'il allait le terminer. Donc, je suis plutôt d'accord avec toi, Pascal, sur ce point-là, puis il met son parti dans une situation qui n'est pas facile, là, de faire une élection partielle dans la circonscription de Terrebonne. Ouais. Est-ce que la CAQ avait vraiment besoin de ça?
Puis, d'après moi, le PQ là, doit être bien placé, là, on va se le dire. Il risque gros. Mais pour en revenir à Pierre Fitzgibbon, moi, là, c'est la semaine dernière. Ce qui m'a surpris, c'est qu'ils disent complètement le contraire du premier ministre. Le premier ministre qui dit non, les coûts d'Hydro-Québec pour ce qui est des résidents, ça va être adapté, ça ne dépassera pas 3 %. Et Pierre Fitzgibbon a dit par la suite, oh, ben là, ça pourrait aller jusqu'à 10 % dans les prochaines années. J'ai l'impression que ça a commencé à gricher un peu à ce moment-là.
Oui, puis Pierre Fitzgibbon, on le dit souvent, là, c'est quelqu'un qui a un petit peu de difficulté, je pense, avec l'autorité, avec se faire dire quoi faire. Puis on l'a vu juste de refuser de jouer le jeu avec les journalistes comme d'autres politiciens le font. Il y a eu tous ces déboires aussi avec la commissaire à l'éthique. Hein. Il y avait de la misère à, j'ai envie de dire, entrer dans le rang. Puis ça a provoqué une réflexion intéressante pour les hommes d'affaires en politique et les femmes d'affaires en politique, et c'est correct. Mais probablement aussi qu'il y avait certaines frictions des fois avec le cabinet du premier ministre. Mais sachez que ça existe dans à peu près tous les mandats. C'est-à-dire que le cabinet du premier ministre va avoir une vision très, très politique. On va avoir les yeux un petit peu plus loin sur la prochaine élection, tandis que dans les cabinets ministériels, on devient un peu plus expert de son dossier. On devient plus spécialiste, puis on est des fois un petit peu plus sur le contenu que sur les enjeux électoraux, disons. Donc, c'est des tensions qui sont quand même un peu normales. Hier, quand on a vu les entrevues de Pierre Fitzgibbon le matin, et finalement, l'article de la presse qui sort disant qu'il démissionne, ça a quand même donné l'impression qu'il y avait eu comme une chicane sur l'heure du lunch. Là.
Absolument. Et moi, je trouve que ça sent le couteau tiré, ça sent le rivifi.
Dans la conférence de presse ce matin, François Legault dit que c'était pas évident de travailler avec Fitzgibbon.
Hey, c'est fou ça. On voit moins ça normalement là, en politique auprès du même parti. C'est plutôt des remerciements pour le travail effectué et tout. Mais peut-être qu'on l'a mis sur un piédestal aussi. On l'a voulu le faire rentrer, on a donné des grosses responsabilités. On le voyait comme quand même un des canons principaux auprès de la CAQ. On l'a toujours laissé être un petit peu plus indépendant dans ses prises de parole. On lui a tellement donné une confiance puis d'agir de façon presque indépendante au sein même du parti que peut-être que là, il y en avait assez, François Legault.
Il y a les défauts de ses qualités.
Oui.
Il y a les défauts de ses qualités, Pierre Fitzgibbon. Ça veut dire que quand tu as besoin de mener des projets à bien, c'est bien d'avoir des gens têtus qui ne font qu'à leur tête aussi, qui ne se laissent pas déconcentrer par la vie de un puis la vie de l'autre, parce que en politique, tout le monde a un avis sur ce que tu fais, puis tu vas avoir des avis contraires. Cela étant, on sait que le défaut de cette qualité-là, c'est qu'il n'écoutait pas toujours effectivement les gens autour de lui, ça pouvait créer des frictions. Il avait tendance aussi à empiéter un peu sur les mandats, les dossiers des autres ministres, il en menait extrêmement large. Puis je trouve que sa démission aussi, finalement, vient boucler la boucle de Pierre Fitzgibbon fait ce qu'il veut. Il a décidé qu'il ne terminait pas son mandat. Puis c'est assez particulier, parce que là, on a des débats sur c'était quoi le bon timing là, pour démissionner. Puis il y a quelques minutes, Pascal et moi, on était comme, est-ce que ça aurait été en décembre? Le bon timing pour quitter, c'est à la fin de son mandat. Puis moi, je trouve qu'on banalise, on vient banaliser un peu l'idée de ne pas terminer un mandat sans une bonne raison. T'es un peu démotivé, ça ne te tente plus. Honnêtement, c'est pas vraiment une bonne raison. Et je pense qu'il y aurait eu moyen d'alléger sa tâche, de changer un peu les choses de façon à ce qu'il puisse terminer son mandat. Mais entre vous et moi, imaginez-vous Pierre Fitzgibbon, député d'arrière-ban pendant 2 ans. Ça m'étonnerait là, qu'il aurait accepté une chose pareille. Donc, comme d'habitude, ça ne tente plus. Donc, il a décidé que c'était terminé. Puis là, il y a un grand débat sur est-ce que ça aurait dû être cette semaine ou en décembre qu'il démissionne.
Je vais te poser une question. J'ai peur de la réponse. C'est 2 mandats pour avoir le droit à sa retraite de l'Assemblée nationale, 6 ans minimum, c'est ça?
Oui, mais c'est pas comme au fédéral. J'aurais pas de réponse précise à donner, mais tu sais, des fois, on reste sous l'impression que tu sais, la grosse pension là, du fédéral, c'est pas la même chose à Québec.
C'est le provincial.
Que je vérifie. Puis il y a la prime de séparation aussi qui existe, mais quand tu n'as pas de raison acceptée par l'Assemblée nationale comme raison de santé ou de famille, donc il n'aura pas de prime. De toute façon, M. Fitzgibbon, il n'est pas allé en politique pour faire la pièce.
Il n'y avait pas besoin de ça.
Il y en a qui disent qu'il a donné beaucoup de pièces aussi, puis il laisse énormément de chantiers. On en a parlé. Hey, parlons de succession.
Ça, c'est quand même intéressant, là, ce point-là, Yannick. Ouais. J'aimerais ça l'effleurer avec Antonine. Il reste qu'il y a des malaises avec certaines décisions avec qui ont été prises par Pierre Fitzgibbon. On fait quoi avec ces genres de rumeurs-là autour de lui?
Oui, mais en fait, c'est ça le débat que Pierre Fitzgibbon aura laissé, moi, que je trouve le plus structurant, outre peut-être les questions d'énergie, mais sur les questions économiques. D'abord, un ministre qui était très, très connecté sur le milieu économique, qui a beaucoup de relations d'affaires avec beaucoup de personnes. C'est pas un ministre qui était dans son bureau, dans sa tour d'ivoire, là. C'est quelqu'un qui allait dîner avec beaucoup de gens, qui avait déjà été en affaires avec certaines personnes qui maintenant faisaient des demandes de subventions au ministère de l'Économie. Moi, je n'ai pas de doute sur l'éthique de M. Fitzgibbon. J'en ai jamais eu au fur et à mesure des enjeux qu'il y avait avec la commissaire à l'éthique. Je trouvais qu'on était plus dans des zones grises où on devait se poser la question, peut-être même de moderniser à quelques égards le code d'éthique pour que, justement, il y ait des gens d'affaires qui puissent aller en politique. Je trouve des fois que le milieu politique est au contraire pas assez connecté sur le milieu des affaires, puis il y a une incompréhension. On veut des gens qui sont compétents en matière économique. Je suis un peu fâchée contre Pierre Fitzgibbon de ne pas terminer son mandat, mais par contre, je ne remets pas du tout en question l'éthique avec laquelle il a fait son travail. Les subventions qui sont données à des entreprises, même s'il y a un lien quelconque avec le ministre, c'est des programmes qui sont généralement normés. Il y a un processus administratif. C'est pas le ministre dans son bureau là, qui est comme « Ah, lui, c'est mon ami, je vais lui donner une subvention. » C'est pas comme ça que ça fonctionne, puis Je peux vous rassurer là-dessus. J'ai jamais vu des pratiques comme ça du temps que j'étais en politique.
J'ai deux noms en tête pour remplacer Pierre Fitzgibbon. J'ai pensé à Christine Fréchette, qui est une femme extraordinaire, hyper brillante, qu'on voit pas beaucoup dans l'actualité, très honnêtement, puis qui gagnerait à être connue à la Coalition Avenir Québec. Puis j'ai Youri Chassin. Lui, il n'y a aucune chance qu'il soit là. Mais Youri Chassin, c'est un gars qui est un peu plus de droite économique, là.
Bien, puis tu dis qu'il n'y a aucune chance qu'il fasse son entrée au Conseil des ministres. Je pense pas que c'est personnel contre lui, parce que c'est pas une personne compétente, mais le premier ministre est allergique au remaniement ministériel. Il n'aime pas ça. Il n'en a jamais fait de très gros depuis les 6 ans qu'il est premier ministre. On nous parle d'un ajustement ministériel, donc il n'y aura pas de nouveaux députés qui vont accéder au cabinet comme tel. Christine Fréchette, 100% d'accord avec toi, elle est très compétente. C'est pas quelqu'un de flamboyant, c'est quelqu'un qui travaille très bien. Qui n'a pas fait de grosses erreurs publiquement à l'heure actuelle et qui serait en mesure, je pense, de prendre le dossier. L'autre nom que je veux vous soumettre, c'est celui de Jean Boulet, qui est quelqu'un qui pourrait aussi assez facilement reprendre un dossier d'envergure. Le problème avec M. Boulet, c'est qu'il avait fait une gaffe dans la dernière campagne électorale, ce qui a fait passer à travers un purgatoire. Il a vu son dossier être charcuté à la suite de la nomination du Conseil des ministres. Mais par exemple, si Christine Fréchette prenait le rôle de M. Fitzgibbon, Jean Boulet pourrait reprendre le relais assez facilement de l'immigration, compte tenu que c'est un dossier qu'il connaît très bien. Fait que c'est les deux noms à retenir cette semaine. Il y a aussi le dossier de la métropole qu'on oublie. Pierre Fitzgibbon est responsable de la métropole. Il y a Chantal Rouleau qui aimerait bien récupérer son dossier de la métropole. Est-ce que ce sera le cas? On va le savoir demain.
Antonine Iacarini, c'est toujours un plaisir.
Merci. Bon automne à tout le monde.
Bye-bye. 11h57, on va faire une courte pause. Vous avez des choses à nous dire? 88-971-1021, 88-971-1021. On vient.
Le garage à Dan Goron a fait bien du ménage.